fanfares, danses, fleurs et ballons à Pyongyang pour accueillir Vladimir Poutine, le président russe en visite d'État en Corée du Nord, une première depuis 24 ans pour donc un sommet bilatéral. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a salué l'avènement d'une nouvelle ère et une amitié fougueuse, je cite, entre les deux pays qui ont signé un accord de partenariat stratégique. Bonjour Olivier Guillard.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, directeur de l'information chez Crisis 24, une société spécialiste de la gestion des risques internationaux. D'abord, question très simple, qu'est-ce qu'est venu faire Vladimir Poutine à Pyongyang ?
Eh bien, écoutez, le président russe n'est pas reçu dans toutes les capitales du monde.
Effectivement.
Pour les raisons que l'on connaît, fort peu de possibilités s'offrent à lui. Il va dans quelques heures filer en direction de Hanoï au Vietnam. Pyongyang était une piste possible qu'il devait de toute façon visiter, si je puis dire, pour des raisons à la fois domestiques, internationales et de terrain. Donc la Corée du Nord, autre état paria international, autre régime plus que suspect aux yeux de la communauté internationale, notamment des grandes démocraties, était ravi de l'ouvrir les portes, d'autant plus que, un petit peu à la différence de ce que l'on entend depuis quelques jours, ce n'est pas tout à fait une découverte ou une redécouverte entre Pyongyang et le chef du Kremlin, mais de toute évidence, donc si l'on se rappelle un tout petit peu sur l'histoire sans prendre trop de temps pour nos auditeurs, la Corée du Nord doit son existence et son apparition dans le concert des nations au début des années 50, à l'issue de la guerre entre les deux Corées, au concours de l'URSS de l'époque de Staline et avec le soutien de son alter ego communiste, la République populaire de Chine. Donc, dans ce jeu triangulaire entre Pyongyang, Moscou pardon, et Pékin, c'est une redite perpétuelle, elle fluctue en fonction des aléas des décennies et des mouvements politiques et des besoins des uns et des autres.
Et on le rappelle, en septembre dernier, c'est le dirigeant nord-coréen qui avait fait le déplacement en Russie. Visite-là, Monsieur Guillard, Vladimir Poutine attend donc un soutien, et ça a été réaffirmé par le dirigeant nord-coréen, un soutien dans sa guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'il attend ? Des munitions, des missiles ? Il y aurait de nouvelles livraisons ? C'est ce que disent en tout cas les Occidentaux.
Alors, bien entendu, comme toujours, dans chaque rencontre entre officiels nord-coréens, russes ou nord-coréens et chinois, donc, il y a les effets d'annonce, il y a les déclarations officielles, il y a la rhétorique toujours extrêmement fleurie. Le contenu et la substance des accords, on l'a très rarement. Bon, ce qui est sûr, c'est que le président Poutine, qui visiblement compte enferrer davantage ses troupes en Ukraine dans une guerre d'usure et d'occupation, va avoir besoin pendant un certain temps encore, malheureusement pour les Ukrainiens, d'armement, de munitions, de remplir son arsenal qui se vide au fur et à mesure donc de son aventurisme. Il ne peut pas trouver ces armements-là uniquement sur le sol russe, auprès de son industrie de défense. Il est contraint d'obtenir des quelques autres arsenaux extérieurs disponibles la ressource nécessaire. C'est auprès de la Corée du Nord qu'il l'obtiendra, d'autant plus que celle-ci est ravie d'ouvrir son arsenal au voisin russe, qui lui rendra d'une manière ou d'une autre, donc la contrepartie de cette contribution à l'effort de guerre, au-delà évidemment simplement du bonheur, entre guillemets, puisque on parlait ce matin entre Poutine et Kim d'une amitié fougueuse et traversant les temps et les océans. On a bien compris qu'il y avait de l'intérêt conjoint momentané entre ces deux capitales, beaucoup de décorum, beaucoup de parades, en définitive très peu de temps sur place. Le président russe est arrivé avec plusieurs heures de retard, il est coutumé du fait, mais là, arrive en Corée du Nord à 3 heures du matin.
Mais comment vous l'interprétez justement ce retard très important ? C'est aussi une manière pour Vladimir Poutine d'installer un rapport de force ?
J'aurais tendance, madame, sans avoir d'être dans le détail du fonctionnement des neurones du chef de l'État russe, j'aurais tendance à interpréter un petit peu ceci plutôt, à défaut de camoufler en tous les cas, comme une sorte de message. C'est le président russe qui se rend en toute puissance, entre guillemets, tel qu'il se sent, tel qu'il se voit, donc auprès d'une nation pas tout à fait vassale, pas tout à fait alliée, mais en tous les cas, avec lesquelles il entretient donc des relations d'opportunité particulières en ce moment. C'est une façon de faire, entre guillemets, attendre ou comprendre au dictateur nord-coréen qu'il y a un senior et un junior dans cette équation plus ou moins contre nature, et que c'est à ce dernier de se plier au desiderata d'une certaine manière du premier. Même si, évidemment, le président russe ne se serait pas permis de faire attendre s'il avait su que des conséquences importantes au niveau de la fourniture des armes et de la disponibilité de l'arsenal nord-coréen donc auraient été la contrepartie de ce faux pas. Mais d'une certaine manière, je me demande si, avant d'atterrir à Pyongyang, le président russe s'est arrêté dans une escale en Sibérie qui n'avait absolument rien de stratégique visiblement. sur l'agenda, il y a certainement un message derrière tout cela, c'est certain, à destination de Pyongyang notamment.
Et Vladimir Poutine a donc annoncé que l'accord de partenariat stratégique qui a été signé avec la Corée du Nord constituait un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression. Donc c'est un message qui vise clairement les Occidentaux. C'est une étape de plus qui est franchie pour vous?
Oui, certainement, à défaut d'étape, en tous les cas, le message est assez clair. Bon, ce n'est pas la première fois que Pyongyang et Moscou donc paraphent un tel type d'accord. En 1961, il y avait déjà un pacte où on traitait d'amitié, d'assistance mutuelle et de coopération, donc, qui est lié dans une certaine mesure la sécurité d'un pays à l'autre et avec la nécessité de venir au secours de la nation éventuellement agressée. Aujourd'hui, c'est une redite qui, évidemment, se lie, entre autres choses, dans le contexte de la guerre en Ukraine et notamment donc les Russes entre guillemets en laissant entendre, on n'a pas le texte sous les yeux, c'est le président Poutine qui en a donné quelques grands traits. Ça se lit hein, dans ce sens que l'avertissement vaut pour les Ukrainiens, vaut également dans une certaine mesure pour les alliés de l'Ukraine, puisque l'on peut lire à travers ceci, si les troupes russes, pardon, si les troupes ukrainiennes s'emploient, elles le font à quelques reprises, donc ces derniers mois, s'emploie à attaquer des cibles russes sur le territoire russe, quelque part, mécaniquement, pourrait peut-être être mise en exécution les dispositions de ce traité, puisque les Russes diraient, écoutez, là, c'est une nation extérieure qui agresse le territoire russe, vous, partenaire stratégique nord-coréen, vous êtes lié donc, par le besoin de nous venir en assistance, puisque, vous voyez un petit peu, ça ne se mettra certainement pas en place comme ceci, mais enfin, c'est une donnée qui ne peut pas passer totalement à côté de l'intérêt majeur des états-majors, justement, et des grandes capitales intéressées. C'est un point certainement sur lequel il faudra revenir avec un peu plus d'exégèse plus tard.
Et le message est encore plus clair vis-à-vis de Washington. La Russie et la Corée du Nord disent lutter ensemble, je cite, contre l'hégémonie américaine. Merci beaucoup à vous, Olivier Guillard, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et directeur de l'information. Merci d'avoir été en direct avec nous.